6-9 sur France Inter.
8h38, c'est la revue de presse. Bonjour Marion Ferrer.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
Et on commence avec le Parisien qui part sur la route des vacances.
En camping-car, désormais, on troque son billet d'avion pour les Canaries pour une maison roulante destination la Bretagne, l'Auvergne ou la Côte Basque. Les Français ont redécouvert ce type de vacances pourtant qualifié il y a encore peu de ringarde. Le camping-car ou le van aménagé est en plein boom. Cela fait 2 étés consécutifs. On ne sait plus où donner de la tête, confirme aux Parisiens aujourd'hui en France, Éric Moulinet. Il est loueur et vendeur en Normandie et plus un seul véhicule de disponible ce mois-ci. Selon le syndicat des véhicules de loisirs, les ventes ont augmenté de moitié par rapport à 2020. Alors pourquoi il séduit à nouveau le camping-car? Parce que lui a bénéficié de l'effet Covid. On y dort, on y mange, on s'y lave, on s'y sent en sécurité. C'est comme si on organisait sa propre bulle sanitaire, explique le professionnel du secteur. Des clients en quête de liberté qui esquivent par la même occasion, le pass sanitaire et la pression de la foule. On pourra toujours s'adapter, changer notre parcours au gré des restrictions qui pourraient tomber, assure Franck qui s'est laissé convaincre cet été. Lac d'Orient, près de Troyes, arrêt dans une chèvrerie près de Sancerre, puis Château de la Loire. Plus de planning, ce père de famille et sa petite troupe fonctionnent maintenant au coup de cœur et aux envies du moment. C'est la liberté, savoure-t-il. Une liberté qui a tout de même un prix. 38 000 euros au moins pour un fourgon aménagé par vos soins. Comptez plus de 54 000 euros si vous voulez la jouer hippie et acheter le fameux combi Volkswagen.
Des Français nombreux dans l'Hexagone cet été.
35 millions environ n'ont pas dépassé les frontières. Si les restaurateurs et commerçants peuvent se réjouir, la nature suffoque. Dans Nice Matin, 3 pages sont consacrées à la surfréquentation des sites naturels, le parc du Mercantour notamment, et l'exemple du lac d'Alos situé à plus de 2000 mètres d'altitude qui a vu plus de 1500 touristes chaque jour l'été dernier. Fréquentation que Xavier Fribourg, le chef de service territorial du parc, a tenté de réguler cette année. À un moment donné, ça ne passe plus et ça déçoit tout le monde, dit-il à nos confrères. Que la montagne est belle, chantait Jean Ferrat. Pourtant, à en croire le garde forestier, ces nouveaux touristes ont du mal à l'apprécier telle qu'elle. Certains ont débarqué avec des matelas pneumatiques et des paddles, comme à la plage, décrit-il. Des bivouacs également démesurés, avec enceintes connectées, barbecue et packs de bière surdimensionnés. Conséquence, le responsable du parc ne veut pas voir son bijou se transformer, je cite, en Palavas-les-Flots. Alors cette année, le parking a été réduit. 180 places, on est passé à 120. Parking contrôlé le week-end pour éviter les excès et éco-gardes déployés sur les sentiers pour échanger avec les randonneurs. Nice Matin qui en profite pour rappeler les bons réflexes. Par exemple, rester sur les sentiers pour éviter le piétinement des zones fragiles. Interdiction de faire des feux. Autre conseil simple d'application, profiter du silence. Après tout, pourquoi aller en montagne sinon? Le bruit effraie les bouquetins, chamois et marmottes et certaines espèces se sont faites très discrètes l'été dernier, même après le départ des touristes, préférant rester au calme, plus haut en altitude, plutôt que de côtoyer des enceintes diffusant du son à plein volume. Et sincèrement, on les comprend.
Oui, effectivement, affluence aussi dans les Calanques de Marseille.
Double page dans Ouest France, les habitants des Calanques de Sormiou voient affluer des grappes de visiteurs, 2000 environ chaque jour. C'est 2 fois plus qu'en 2019, souligne Zachary Bruyas, attaché de presse du parc naturel des Calanques. Des touristes parfois sans gêne, qui n'hésitent pas à pique-niquer sur la terrasse des cabanons, pourtant habités, ou à demander d'utiliser les toilettes des résidents. La semaine dernière, on m'a demandé s'il y avait une boutique de maillots de bain, s'amuse Chantal. Non, pas de boutique ni de toilettes publiques ici. Ici, ça sent la garrigue, le romarin, on se prélasse au chant des cigales. Les Calanques, c'est un cocon. On vit un peu caché, admettent les cabanonniers. Des bicoques coupées du monde, du moins du tumulte de Marseille. Des petites maisons alimentées en eau par des citernes. C'est une bulle, une carte postale où le temps s'étire au bruit des parties de pétanque, des rires des enfants et de leurs baignades interminables. C'est une nature protégée. Les bateaux n'ont pas le droit d'y mouiller afin de préserver les fonds marins. Un paradis qu'il faut désormais partager, mais avec raison. Et le parc national des Calanques tente de faire face. En été, par exemple, la route de Sormiou est désormais réservée aux résidents. Et non loin de là, la Calanque de Sugiton a décidé d'aller plus loin. En 2022, l'accès pour les touristes se fera sur réservation. Vous l'aurez reconnu, Laetitia, le générique de Koh-Lanta, programme indissociable de la fin de l'été et qui a rendu accro plus d'un Français pendant les confinements. L'émission de survie est de retour le 24 août, édition spéciale avec des aventuriers phares du programme. Le journal du dimanche y consacre deux pleines pages pour tenter de comprendre le phénomène. Et pour cause, l'émission de TF1 souffle cette année ses 20 ans et le principe reste pourtant identique. Deux équipes, des candidats qui s'affrontent sur des épreuves physiques pour rester dans la course et améliorer leur confort. Et à la fin, comme si, comme le dit si bien Denis Brognard, il n'en restera qu'un. Alors pourquoi ça marche ? Ce qu'on montre dans Koh-Lanta, c'est un monde sain qui met en avant la valeur du travail, analyse François Josse, professeur de la Sorbonne Nouvelle et spécialiste des médias. Des candidats sans chichi ni maquillage sur le modèle intemporel de Robinson Crusoe. À partir de rien, on se refait une humanité. Il faut aussi l'avouer, les spectateurs, et je m'inclus sans honte dedans, adorent les stratégies, les rebondissements et les trahisons. Des ressorts dramatiques imprévisibles qui expliquent l'engouement durable du public, résume le JDD. Aucune saison ne se ressemble, sauf sur un point, Claude Eteura ne gagne jamais. Et elle est là aussi, la clé, la réussite. C'est le casting des gens comme vous et moi, Laetitia, mais aussi des candidats qui ont vraiment envie de se retrouver perdus sur une île loin de tout confort. Le journal énumère des anecdotes. L'un d'eux est venu à Paris depuis le sud à pied pour prouver sa ténacité. Un autre a déposé pendant deux mois une lettre manuscrite dans la boîte aux lettres de la production. Un troisième a montré qu'il savait faire du feu dans le hall de l'hôtel où se déroulaient les entretiens. Mais avec l'explosion des réseaux sociaux, le JDD rappelle que le revers de la médaille peut être difficile à gérer. De plus en plus de candidats font face à des commentaires violents, insultants, voire extrêmes, comme des menaces de mort. On voyait le phénomène arriver, mais personne ne pensait que ça prendrait une telle ampleur, avoue Stéphanie Clément, directrice de la communication d'ALLP. Koh-Lanta, on le rappelle, qu'on aime ou non, c'est près de 6 millions de téléspectateurs chaque vendredi soir devant leur écran. Une habitude à changer, TF1 joue avec le feu puisque la diffusion se fera désormais le mardi soir. Et surtout, on n'oublie pas que ça ne reste qu'un jeu.
Merci Marion Ferrer.